France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et Cassandre Puel. À la technique, ce matin, c'est Ruben Carmazine. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux politiques carcérales dans le monde après la Russie, la Tunisie, le Salvador. On parle aujourd'hui de deux pays européens confrontés à la surpopulation carcérale et à ses dilemmes. La Grande-Bretagne, plus précisément l'Angleterre, et la France.
Là, on est dans une cellule de 10 mètres carrés.
C'est ça.
À 3.
Ils sont 3 lits, ouais.
Donc ici, en fait, ici, par rapport à ce qui est normalement la norme...
Un lit. Normalement, il devrait être un lit.
Il y a une loi qui a été travaillée et voté en 1875, qui oblige dans les prisons françaises à ce qu'il y ait un détenu par cellule, pas plus.
Quand on enferme des individus à 3 ou 4 dans 9 ou 12 mètres carrés, bah celui qui a la clé qui ouvre la porte, c'est le surveillant, c'est lui qui va prendre toute l'attention qui existe à l'intérieur de cette cellule, qui aujourd'hui sont de vraies cocottes minutes. Donc au mieux, c'est des insultes, des menaces, au pire, ça monte parfois jusqu'à des agressions physiques.
Ça ne marche pas. Il ne faut pas s'étonner que les prisons soient pleines en permanence. Une fois que tu y as goûté, tu finis toujours par y revenir. Si tu sors, tu n'as nulle part où te loger, donc tu finis par retourner en prison. Puis tu ressors et tu manques un rendez-vous et on te remet en prison.
En août dernier, au cœur de l'été anglais, des hommes sortaient au compte-gouttes des prisons du pays, silhouettes alourdies de gros sacs poubelles, baluchons de fortune remplis à la va-vite. 1700 détenus ont ainsi été libérés presque du jour au lendemain, de manière anticipée par le gouvernement travailliste, soucieux de désengorger les prisons du pays. Sauf que ces tout juste ex-prisonniers n'avaient pour certains plus de logement, alors ils sont allés droit devant eux, un peu interdits, comme des gens à qui l'autorité pénitentiaire aurait concédé quelques lopins dans un champ de tir. En France, cette fois, en avril dernier, les prisons étaient visées par des coups de feu, des incendies de véhicules, des raids d'éclairs, tous signés de la même manière, le tag DDPF, pour défense des droits des prisonniers français. Un groupe tout juste créé, qui est allé jusqu'à mettre en garde les surveillants sur le mode démissionner avant qu'on ne s'occupe de vous ou de vos proches. Le motif de leur colère, les conditions de vie en prison, où le taux d'occupation des cellules dépasse aujourd'hui les 133%, et encore, ce n'est qu'une moyenne. Si en Angleterre comme en France, les gouvernements disent vouloir en finir avec la surpopulation carcérale, le dilemme se pose dans les mêmes termes pour l'un et l'autre. Construire plus de prisons au risque de creuser encore le déficit budgétaire ou limiter le nombre de détenus et se voir traiter de laxiste. D'autres options sont de plus en plus étudiées. Délocaliser une partie de ces détenus à l'étranger, la sous-traitance carcérale. Alors comment expliquer que l'Angleterre, mais plus encore la France, soit confrontée à cette surpopulation chronique dans les prisons? Quelles sont les réponses envisagées? Et justement, c'est la une de la BBC ce matin, puisque le gouvernement vient d'annoncer un nouveau rapport sur la crise carcérale et des mesures pour la résoudre. Bonjour Franck Olivon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence au département de géographie de l'ENS. Votre thèse en géographie porte sur les territoires de la peine, donc la façon dont les dispositifs carcéraux dits de milieux ouverts, comme le bracelet électronique, diluent l'espace carcéral hors des murs de la prison. Vous aurez l'occasion de nous en parler, bien sûr. Et nous sommes également depuis ici Gare-Lozère, anciennement France Bleu Gare-Lozère, avec Marion Vanier. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes enseignante-chercheuse aux universités de Manchester et d'Oxford. Vous connaissez très bien les politiques carcérales anglaises, et je dis anglaises et pas britanniques, car entre Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, les systèmes carcéraux diffèrent. Marion Vanier, qui en Angleterre a décidé en août dernier, et qui l'a décidé pourquoi, de faire libérer 1700 détenus presque du jour au lendemain?
Alors, c'est une mesure qui a été décidée en juillet par le Parti travailliste. Elle a été tout de suite qualifiée, cette mesure, comme une mesure d'urgence. Donc, il y avait vraiment, dès le mois de juillet, cette sensation qu'il fallait faire quelque chose et quelque chose de très, très rapide. Et ils ont présenté ce projet de loi qui consistait à libérer les prisonniers condamnés à des courtes peines, donc allant jusqu'à 5 ans, pour des crimes non violents et non sexuels. nouvelles. Il y a une liste de prisonniers exclus assez exhaustive, et de les libérer à 40% de leur peine plutôt que 50%. Donc ils étaient libérés un peu plus tôt que ce qui était normalement prévu.
Tout ça à l'initiative, pardon, d'un ministre des prisons qui venait de tout juste Absolument. D'être nommé après la victoire des travaillistes en juillet, James Timpson.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et, qui est-il?
Et James Timpson est assez intéressant. Il est connu pour avoir créé à travers l'Angleterre des cordonneries et des petites boutiques, des petites échoppes qui font les clés, où les gens employés sont uniquement des prisonniers. Et James Timpson, lui aussi, a passé un moment en prison. Donc il est assez aguerri sur la question. C'était vraiment une mesure qui se voulait intéressante, mais faite tellement dans la va-vite que les conséquences ont été catastrophiques. Et juste toute petite précision, Julie, aujourd'hui, il y a 16 000 personnes qui ont été libérées sous ce projet de loi.
Donc c'était vraiment un premier volet, 1700 personnes en août.
Exactement.
16 000 depuis.
On en est à 16 000 depuis septembre 2024.
Initialement, le plan, c'était de procéder à 40 000 libérations anticipées. Est-ce que c'est toujours l'objectif? Donc la moitié des détenus, en fait, de la population carcérale.
C'est toujours l'objectif. Le seul souci, enfin l'un des soucis constatés, c'est que nombre des gens qui ont été libérés hâtivement, en fait, se font rappeler en prison. Donc je dis bien le mot rappeler et non ne sont pas des récidivistes forcément, ils ne commettent pas de nouveaux crimes, mais ils ne respectent pas les conditions de leur libération anticipée. Donc ça peut être un coup de fil raté avec leur agent de probation, un rendez-vous manqué, etc. Et du coup il y a un petit peu un phénomène cyclique qui est en train de se produire à la suite de cette libération d'urgence.
Pour comprendre aussi comment ça s'est organisé au niveau national, le ministre, donc ce James Timpson, qui, comme vous dites, a employé dans son entreprise beaucoup d'anciens délinquants et que des anciens délinquants. Il dit que sur les 1500 ex-délinquants qu'il a employés depuis la création de son entreprise, seulement 4 ont replongé. Donc il veut donner cette chance-là à d'autres détenus sur des critères très précis. Comment ça s'est organisé au niveau national? Une fois qu'il l'a décidé, il a envoyé une directive au directeur de prison. Il leur a demandé de faire des listes.
Absolument. En fait, après, c'est un problème un peu plus méta entre les politiques pénales qui sont décidées au niveau gouvernemental, au niveau législatif, et puis leur traduction et leur mise en application au niveau des différentes prisons. Nous, ce qu'on a pu constater, on était sur le terrain, c'est un mail qui arrive dans la boîte mail de personnes qui doivent, du jour au lendemain, faire une liste des prisonniers, éligibles à cette libération anticipée. Donc, c'est un vulgaire tableau Excel. Et après une annonce, mais il faut vraiment imaginer. Enfin, l'image que j'avais, moi, c'était une scène de guerre où les gens couraient dans les prisons, allaient de cellule en cellule en disant demain tu sors, prépare tes affaires. Et de la part des gens aussi du staff, hein, des officiers de prison et des officiers de probation qui sont en prison, il y avait un vrai sens de panique qui disait mais lui il est absolument pas prêt, où est-ce que celui-là va aller, qu'est-ce que je dois faire. Donc une mesure qui se voulait en tout cas intéressante, mais qui a été faite tellement dans la violence et la violence vraiment administrative et qui reflétait vraiment un manque de préparation. Au final c'était plus le chaos que quoi que ce soit d'autre.
Et des détenus à qui on annonce leur libération soudaine, donc entre eux, peut-être un début d'enthousiasme, mais aussi un peu interloqué.
Absolument, parce que se posait déjà la question. Enfin, faut imaginer la prison où j'étais moi personnellement à ce moment-là, et c'était une prison qui était vraiment dans la campagne profonde au nord de l'Angleterre où il y a pas de moyens de transport. Et du coup, se posait la problématique de j'ai 50 cents dans ma poche, 50 pence, et comment je fais pour prendre le bus, un taxi? J'ai un sac poubelle parce que je n'ai pas de valise. Et où est-ce que je dors ce soir?
Je n'ai pas du tout eu le temps de me préparer. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Il faut que je me débrouille pour trouver rapidement une solution. Tout s'est fait en dernière minute. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Qu'est-ce que je peux y faire, moi?
Nous n'avons pas du tout apprécié la manière dont les libérations anticipées de septembre ont été menées. Elles nous ont impactés très fortement. Et on verra comment ça se passera pour les prochaines. Je suis pour ces libérations anticipées qui permettent d'alléger les prisons, mais je n'accepte pas que nous, communauté de travailleurs sociaux, devions en assumer le poids.
Des témoignages d'un ancien détenu et du directeur d'un centre d'hébergement pour personnes sans domicile, le Foxton Center, interrogé par Channel 4. Donc on entend bien le chaos, comme disait Marion Vanier, les foyers d'hébergement qui se retrouvent saturés du jour au lendemain, et des détenus quand même censés être suivis par des agents de probation et dont certains ont depuis été rappelés en prison. Alors Franck Olivon, on entend bien que l'Angleterre a réagi politiquement l'été dernier parce que le taux de population carcérale était en train d'approcher très dangereusement des 100%. Les prisons françaises, elles, ont très largement dépassé ce seuil il y a au moins 20 ans, avec d'ailleurs une notable baisse pendant le Covid, on en parlera sans doute, mais cette surpopulation qui a encore augmenté ces 4 dernières années, depuis quand cette question est considérée comme un enjeu de politique publique ?
Alors en fait, je pense que la question de la surpopulation, elle est à replacer dans le cadre d'un débat sur les conditions de détention. Et on voit dans l'extrait que vous avez passé au tout début, là, on voit que finalement, dès la fin du 19e siècle, en fait, on se pose la question du nombre de détenus dans une cellule. Mais je pense que longtemps, cette question, elle est restée mélangée, en fait, avec la question des conditions de détention. Moi, je suis pas forcément un spécialiste de l'histoire de la surpopulation carcérale, mais il me semble que dans les années 1970, en France, avec les émeutes qui se produisent, la question de la surpopulation, là, elle est mise en avant, alors ponctuellement, dans certaines prisons qui sont soulevées, où il y a eu des manifestations dans ces années-là. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 80, on voit apparaître, en fait, dans les travaux des parlementaires, cette question autour de la surpopulation, du taux de personnes incarcérées. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là, en tout cas quand on regarde les statistiques pénitentiaires, que sont documentés en fait les taux de surpopulation carcérale.
Dans les années 70, quand émergent les premières mobilisations contre les quartiers de haute sécurité, à l'époque, des responsables politiques avaient une sensibilité particulière sur la question des prisons. Certains en avaient fait eux-mêmes de la prison pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors ça, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, les premières réformes en fait de la prison française, elles sont aussi inspirées par le destin en fait d'un certain nombre de personnages pendant la Seconde Guerre mondiale qui eux-mêmes ont connu en fait des conditions d'enfermement en tout cas.
Alors, quand le bracelet électronique va-t-il être présenté comme une solution, le bracelet électronique sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Franck Olivon ?
Alors, en fait, les alternatives à l'incarcération comme le bracelet électronique, elles apparaissent dès la fin du 19e siècle. Elles sont très ponctuelles. Et puis, elles se généralisent dans la seconde moitié du XXe siècle. Le bracelet électronique, en fait, il apparaît aux États-Unis dans les travaux d'un psychologue de Harvard, Ralph Schwitz-Gebel. Il lance une première étude, une première expérimentation de ce bracelet qui destine à toutes les formes de déviance. Il y a la criminalité, mais pas que dans sa conception de la déviance. Il lance une expérimentation et puis le projet tombe un peu à l'eau avant de revenir en fait dans les années 80. Il est exhumé par un magistrat d'Albuquerque qui le met en place donc aux États-Unis. Et puis au cours des années 80, progressivement différents États américains se mettent à le prononcer ou à l'utiliser. Après ça passe au Canada, puis ça traverse dans les années 90 l'Atlantique pour venir en Europe du Nord, la France à la fin des années 90, et puis maintenant, en fait, dans un certain nombre de régimes, de régimes pénitentiaires dans le monde, il y a le bracelet électronique.
Sur quel motif, en général, le bracelet électronique est privilégié et dès les premières années, quand aux États-Unis il apparaît, est-ce que c'est en disant on va vider les prisons et peut-être éventuellement ça coûte beaucoup moins cher, ou est-ce qu'il y a une forme d'idée de protéger certaines libertés ou de se montrer plus humain, en tout cas vis-à-vis de certains qui ont effectué des peines pour des délits qu'on considère comme mineurs ou des...
Alors, dans les textes de Schwitz-Gebel, c'est pas véritablement... La question de la surpopulation carcérale n'est pas très présente, en fait. Lui, le principal objectif qu'il voit, c'est un objectif thérapeutique, et puis un deuxième objectif qui est quand même non négligeable, c'est un objectif humaniste, en quelque sorte, considérant que l'enfermement est un traitement inhumain de l'individu. Et en France, par contre, quand il arrive, le bracelet électronique, là, il arrive vraiment en 89, dans le rapport de Gilbert Bonne-Maison, et il est vraiment présenté comme la contrepartie, en fait, à la mise en place d'un numerus clausus dans les prisons françaises.
Donc, en France, il existe aujourd'hui le bracelet électronique est largement répandu. D'ailleurs, à quelle hauteur est-ce qu'on sait, parmi tous les régimes, les dispositifs font en sorte que les détenus soient sortis de la prison? On parle de prison en milieu ouvert. Quelle part représente le bracelet électronique aujourd'hui?
Alors, au total, on a à peu près 20 000 personnes au 1er avril 2025 qui sont sous brasse électronique. Il y a différentes formes. Disons que la plus répandue, c'est celle d'un aménagement de peine. Donc, la personne est condamnée à une peine de prison. Et puis, elle exécute cette peine sous la forme d'un bracelet électronique à l'extérieur. Sachant que c'est une surveillance qui est dite fixe, parce qu'en fait, ce qu'on surveille, c'est le retour au domicile de la personne sur des horaires délimités. À différencier d'une surveillance géolocalisée avec un GPS, où là, la personne est suivie en permanence dans ses déplacements. Et cette surveillance-là est utilisée en France, mais très peu.
Le bracelet électronique, les travaux d'intérêt général, la semi-liberté, le sursis probatoire, qui est très utilisé, c'est quand un magistrat condamne le prévenu à une peine que ce dernier peut éviter de purger s'il remplit une série de critères. Et malgré tout, les prisons ne désemplissent pas. Alors pourquoi ?
Alors, ce qui est certain, c'est que effectivement, on a une. Si on regarde les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire depuis les années 80, on voit qu'en fait, on a une croissance continue de la population en milieu ouvert. Et que parallèlement, en fait, la population en milieu fermé, elle continue de croître. Pourquoi ? Probablement parce que on criminalise de plus en plus de comportements, et donc de facto, on fait augmenter la population pénale. D'autant que par ailleurs, c'est pas parce que vous avez une alternative que vous allez nécessairement la prononcer. Ouais. Vous pouvez choisir de prononcer une peine ferme malgré tout.
Avant de venir. Vous êtes sûrement posé des questions sur cette peine de 2 mois. Vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous aviez envie de me dire ou de demander sur cette peine ?
Sincèrement, je peux pas me choisir moi-même ce que je voudrais. Quoi.
C'est pas moi qui demande. Hein ? Moi, je demande rien. C'est moi qui choisirai en définitive. C'est bien moi qui déciderai. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez adapté à votre situation. Qu'est-ce qui aiderait à poursuivre l'évolution ?
Quelque chose que je peux me rendre à mon travail si j'ai une mission à faire ou si j'ai un contrat. Donc si c'est le placement en bracelet électronique, ce serait super.
Ok. Donc vous, c'est ça votre demande ?
Alors, elle s'appelle Cécile D'Angle, elle est juge d'application des peines à Lille. Elle s'entretient ici avec une personne récidiviste condamnée à 2 mois de prison pour conduite sans permis. C'est un extrait d'un reportage de la chaîne Brigade d'élite. Est-ce que, d'abord, les juges d'application des peines demandent toujours aux condamnés ce qui les arrange comme éventuelle alternative à la prison, Franck Olivon ?
Oui. Alors après, c'est un peu une question, rhétorique parce que souvent le magistrat sait ce qu'il va proposer à la personne qu'il est en face de lui. Mais c'est une question quand même pour voir un petit peu comment la personne se positionne vis-à-vis de sa peine. Parce que le principe fondamental, c'est celui de l'individualisation de la peine en France. Et donc du coup, cette individualisation de la peine, elle doit aussi, prendre en considération les représentations que la personne qui va exécuter la peine a de ce temps à venir. Quoi.
Un rapport de la Cour des comptes assez récent, que cite d'ailleurs volontiers le ministre de la Justice en France, Gérald Darmanin, dit que les aménagements obligatoires pour les courtes peines ont conduit les magistrats à prononcer des peines plus longues pour s'assurer qu'elles soient bien exécutées, et que donc les courtes peines n'auraient produit aucun effet sur la diminution de la population carcérale. Marion Vanier, à ce sujet, peut-être un petit mot. Il n'y a pas de juge d'application des peines en Angleterre, donc ce juge qui peut prononcer une libération anticipée. Est-ce que pour autant les magistrats prononcent plus volontiers des peines courtes, en se disant que de toute façon, en pendant de la situation française et de ce qui est invoqué aujourd'hui par la Cour des comptes et le ministère de la Justice ?
Alors, la réponse courte, c'est non. Les juges ne sont pas du tout friands des courtes peines, ne sont aussi pas du tout friands des peines communautaires, qui pourtant ont montré qu'elles réduisaient davantage la récidive que les courtes peines.
Donc, si on compare, qu'est-ce que c'est les peines communautaires, pardon ?
Les peines communautaires, ce seront typiquement les peines de travaux d'intérêt général, le bracelet électronique, les placements à l'extérieur, etc. Donc ce sont des peines qui sont exécutées, on va dire, à l'extérieur des murs d'une prison. Et les courtes peines, on a montré qu'il y a 63% de récidive après la prison pour des peines de moins de 12 mois. Et les peines communautaires, qui en contrepartie, elles, produisent des taux de récidive beaucoup moins élevés, sont utilisées très très peu. Moins de 10% des peines sont des peines communautaires. Et cela relève ou reflète plutôt une faible confiance de la part du judiciaire. Ils ont non seulement peur que ces peines en fait produisent de la récidive, mais aussi une faible confiance dans la probation, dans l'efficacité de la probation. Est-ce que les prisonniers qui sont sous peine communautaire, enfin les gens condamnés sous peine communautaire, est-ce qu'ils ne vont pas au final ne pas être surveillés suffisamment, ne pas être suffisamment accompagnés, donc on préfère les mettre en prison.
Franck Olivon, comment avoir sur ces questions une réflexion qui se débarrasse de ce que d'aucuns appellent l'idéologie ou des convictions, voire des intérêts politiques? Est-ce qu'il a été prouvé scientifiquement que les initiatives dites en milieu ouvert permettent d'éviter la récidive?
Alors c'est une question qui est très débattue au sein même de la communauté scientifique. Tout dépend de ce qu'on qualifie de récidive, le pas de temps qu'on prend en fait pour arriver à essayer d'objectiver en fait les effets sur la récidive. Disons qu'il y a aussi un biais, c'est que en fait la personne en France, en tout cas les personnes qui exécutent des peines en milieu ouvert sont des personnes qui sont déjà triées. C'est des personnes qu'on a, notamment dans le cas des aménagements de peine, c'est des personnes que les magistrats ont jugées suffisamment insérées pour pouvoir exécuter leur peine de prison sous forme d'un aménagement de peine. Et donc du coup il y a déjà un biais, c'est que c'est pas la même population que vous avez entre la prison et les aménagements en milieu ouvert, ce qui est voilà, donc c'est quelque chose qui est assez débattu. J'aurais du mal à vous répondre de façon très franche hein, sur la question de la récidive, en tout cas sur le cas français.
Marion Vanier, sur la façon dont ces sujets sont débattus en Angleterre, sur le système de libération anticipée, par exemple, dont on parle beaucoup depuis l'été dernier en Angleterre, qui est ouvert aux détenus purgeant de courte peine. Sur la question de la récidive, vous nous disiez tout à l'heure que ceux qui se représentent, enfin qui retournent en prison depuis quelques mois, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont récidivé. Alors où en est l'état du débat sur cette question?
Alors là, je rejoins vraiment Franck Olivon sur ce concept un peu fourre-tout de la récidive. On imagine un peu la récidive on imagine que la personne sort de prison et va direct braquer dans le premier magasin. La récidive, enfin ce qu'on appelle récidive, ou du moins en anglais, ce qui est traduit par recall, c'est aussi, ça comprend toutes les mesures, toutes les violations administratives. Donc ça devient un peu une notion fourre-tout. Et quand la rhétorique politique s'en empare en disant tant de personnes récidives, au final on a cette image du criminel interminable, enfin qui ne sera jamais proprement réinséré. Donc le terme récidive, il est intéressant. Ce que je constate en Angleterre, c'est que jusqu'à très récemment, la libération anticipée s'était vraiment associée avec une politique laxiste qui n'était pas sécuritaire, qui ne protégeait pas la communauté. Et là, alors sous Keir Starmer, le premier ministre britannique travailliste, mais ça avait commencé déjà sous les conservateurs. Il y a vraiment une accélération et une excitation même pour la libération anticipée. Donc une libération anticipée pour les gens condamnés à des peines fixes qui seront libérés plus tôt. Une libération anticipée aussi pour ceux qui justement ont été rappelés pour violation de mesures administratives et qui seront détenus sous rappel pour des période beaucoup plus courte et libérée automatiquement. Et là, le rapport que vous évoquiez en introduction, le rapport présenté au ministre de la Justice, Shabana Mahmoud, propose une libération à hauteur de un tiers pour bon comportement. Et là, le bon comportement, apparemment, il est inspiré d'une Supermax au Texas. Alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant que les Anglais aillent suivre le modèle texan. Mais bon, la libération anticipée, aujourd'hui, est vraiment prédominante dans le discours politique anglais pour adresser le problème de la population de la surpopulation carcérale.
Beaucoup plus qu'en France. Franck Olivon, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, en fait, c'était revenir sur un point que Marion Vanier souligne très justement, c'est le fait que ces peines communautaires ou en milieu ouvert, elles ne se pensent pas indépendamment de la prison. Et donc cette idée d'une réponse en fait à la surpopulation carcérale par des alternatives, en fait, elle a un léger biais, parce qu'en fait toute personne qui ne remplit pas ses obligations en milieu ouvert ou dans une peine communautaire communautaire est généralement réincarcéré. Et donc on crée aussi, si vous voulez, une forme de nouvelle délinquance qui n'est plus liée à de la délinquance figurant, si vous voulez, dans le code pénal pour des infractions générales, mais là pour des infractions, si vous voulez, à des règles au sein du système pénitentiaire lui-même.
Et vous dites, Franck Olivon, que toute cette myriade de dispositifs qui existent pour éviter que, a priori, les prisons n'explosent, donc travaux d'intérêt général, enfin tout ce que vous avez évoqué depuis le début et surtout le bracelet électronique, ça a finalement élargi le spectre des individus traités par l'institution, ce que vous appelez le filet pénal. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors c'est effectivement l'extension du filet pénal. Donc, c'est une notion qui est produite par la criminologie anglophone pour désigner, si vous voulez, cette extension du nombre de personnes qui sont d'une façon ou d'une autre judiciarisées ou suivies par la justice. Et donc, de facto, ce qu'on voit, c'est que ces alternatives à l'incarcération, elles se sont pas substituées à la prison, elles se sont surajoutées à la prison. Et on a une croissance de la population carcérale. Il me semble que depuis les années 80, on a une augmentation de 90% de la population détenue. On a une augmentation de 150% de la population en milieu ouvert. Mmh. Et je crois que sur le même pas de temps, on est à 20% d'augmentation de la population française. Donc en fait, la population couverte, si vous voulez, par la justice, elle croît plus vite que la population française.
La plupart des détenus sont des gosses. Quand on les voit débarquer à 18 ans pour leur première détention, on sent bien qu'ils sont perdus. Puis, on voit ensuite à quel point ils s'intègrent rapidement auprès des autres détenus, qu'ils s'acclimatent à la délinquance. Ils sont à nouveau condamnés à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans. À chaque fois, on voit bien qu'ils sont plus endurcis par le précédent séjour en prison. On voit bien qu'ils sont condamnés à des peines toujours plus longues. C'est triste pour nous. On construit une relation avec eux. On oublie souvent cet aspect de notre métier. On ne se contente pas de fermer des portes à clé. On joue le rôle de conseiller sentimental. Parfois, on s'improvise pompier, infirmier, thérapeute.
Témoignage d'une agente pénitentiaire de la prison de Preston, la prison qui produit de la violence, même Gérald Darmanin en France le reconnaît avec une réponse qui n'est peut-être pas celle attendue suite à un pareil constat, mais peut-être vous vouliez, Marion Vanier, dire quelque chose au sujet de ce témoignage que l'on vient d'entendre qui a été recueilli par Sky News cette année.
Oui, mais en fait, je voulais juste commenter sur un point que Franck Olivon venait de dire. En Angleterre, le ministre de la Justice vient d'annoncer en 2025 une initiative qu'elle a appelée la prison hors des murs, enfin même punishment outside of prison, avec l'idée d'étendre en fait le spectrum de la surveillance hors des murs de la prison. Alors via la technologie en particulier et l'IA, et aussi sous couvert de réduire la population carcérale. Mais pour faire écho au témoignage aussi que vous venez de faire passer, moi je trouve que si on met bout à bout tous les commentaires, l'extension de la prison, enfin de la peine hors des prisons, c'est quelque part un peu un échec, un aveu de l'échec de la prison. La libération anticipée d'urgence qui en fait devient un déversement de gens qui ne sont pas prêts à la réinsertion sur des agents de probation qui sont sous-staffés, qui n'ont pas les moyens. Le recours à la technologie qui en fait étant la surveillance, qu'elle soit territoriale, là il y a des mesures de reconnaissance biométrique qui vont être instaurées en Angleterre. Pour moi, c'est vraiment l'aveu politique que la prison ne marche pas. Et oui, la prison est extrêmement destructrice, alors encore plus pour les jeunes, comme vous venez de faire passer dans le témoignage juste là.
Franck Olivon. Non, j'ai cru que vous souhaitiez dire quelque chose.
Non, okay. Je suis tout à fait d'accord.
Justement, cette idée que la prison produise de la violence, Gérald Darmanin l'a reconnu en France au gouvernement qui dit à la fois vouloir résoudre le problème de la surpopulation carcérale, notamment en réservant la prison aux personnes condamnées pour des violences physiques, et être contre l'idée en même temps d'un mécanisme suggéré par la contrôleur général des lieux de privation de liberté pour examiner les possibilités de sortie des prisonniers en fin de peine. Lui préfère, comme il l'a dit il y a quelques jours dans une lettre au magistrat, construire des prisons modulaires, expulser les détenus étrangers, différencier les prisonniers en fonction de leur dangerosité. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui existe en Angleterre, Marion Vanier, différencier les prisonniers en fonction de leur dangerosité. Comment ça marche et pourquoi est-ce que ça contribuerait, d'après lui, à lutter contre la surpopulation carcérale?
Alors, la mesure de différencier sur le critère de dangerosité, la notion de dangerosité, elle est complètement associée à la notion de risque et elle est mesurée, ou elle est tentée d'être mesurée en Angleterre dans le système carcéral tout au long de la peine du prisonnier. D'ailleurs, c'est pour ça que en Angleterre, il y a des prisons, les prisons sont classées alphabétiquement de A à D et un prisonnier, on appelle ça progresse de la A qui est la prison de haute sécurité à la D sous couvert de démontrer une dangerosité amoindrie. Et pour l'établir, il faut aller à des cours particuliers de gestion de la violence, de gestion de la colère, de différentes addictions. Et en fait, au fur et à mesure, ils remplissent plusieurs formations et leur niveau de dangerosité est évalué, mesuré tout au long de la peine jusqu'à ce qu'on considère qu'ils ne présentent plus un danger justifiant leur incarcération.
Vous êtes très organisé alors? Ou est-ce que ça l'est surtout sur le papier? Voilà.
Sur le papier salé. Après, faut pas oublier que certaines peines et certains crimes sont stigmatisants dans le monde carcéral, mais aussi dans la société. Et du coup, on associe presque une dangerosité de facto, mais aussi indélébile. Je pense notamment aux crimes sexuels. En ce moment, c'est la peine et le crime, enfin le crime du moment et la peine qui est associée. C'est un crime dont il est très difficile de se débarrasser, enfin du stigma qui est associé avec ce crime. Donc la dangerosité, elle est assez problématique, elle est mesurée par différents outils quantitatifs, elle est aussi évaluée de façon très subjective, et puis surtout, ça requiert des moyens qu'il n'y a pas et qui ne sont pas mis à disposition en prison.
En Angleterre, la surpopulation concerne toutes les prisons à peu près de la même manière, enfin surtout dans les grandes aires métropolitaines. Olivon, vous qui avez travaillé sur les territoires de la peine, on parle en France il y a un chiffre qu'on donne toujours, 133% de surpopulation carcérale, mais qui oublie toutes les disparités. Comment est-ce qu'on peut rapidement cartographier les disparités de la surpopulation sur le territoire français?
Alors, ces disparités, elles tiennent en partie au type de... Enfin, elles renvoient au type d'établissement. Hein, donc, en grosso modo, on a trois grands types d'établissements, les maisons d'arrêt, les centres de détention, et puis les maisons centrales. Donc les maisons d'arrêt, c'est pour les prévenus et les personnes condamnées à moins de 2 ans, les centres de détention pour les personnes condamnées à plus de 2 ans et les maisons centrales pour les longues peines. Et donc en fait en France, la surpopulation en fait, elle se trouve très majoritairement dans les maisons d'arrêt en fait. On est au 1er avril 2025, on est à 161,8% en fait de densité carcérale dans ces maisons d'arrêt. On est quasiment à 100% sur les centres de détention, on est à 88 je crois pour les maisons centrales.
Le taux d'occupation en maison d'arrêt en France peut aller jusqu'à 203%, c'est Lance Le Saunier par exemple dans le Jura, 280% pour le quartier homme, parce que les quartiers hommes sont particulièrement touchés par la surpopulation carcérale.
Ouais, alors il y a des variations géographiques. Ce qu'on voit, c'est que par exemple dans l'est de la France, donc la direction interrégionale de Strasbourg, là les taux de, enfin c'est là où on a même des maisons d'arrêt qui sont pas surpeuplées. C'est ce qui est un peu une prouesse dans le système français. Par contre, autour de Toulouse et puis dans les départements et régions d'outre-mer, on a pour le coup une surpopulation carcérale qui est très importante, y compris d'ailleurs dans les centres de détention et pas juste dans les maisons d'arrêt.
Avec donc ce dilemme pour tous les gouvernements qui sont en ce moment au pouvoir et qui disent vouloir lutter contre la surpopulation carcérale, est-ce qu'il faut construire de nouvelles prisons? Est-ce qu'il faut développer des alternatives aux peines ou les deux?
We are building at breakneck pace.
Nous sommes en train de construire des prisons à un rythme sans précédent dans notre histoire. Mais nous devons être honnêtes. Honnêtes comme le gouvernement précédent ne l'a jamais été. Construire des prisons est nécessaire, mais pas suffisant. Ces nouveaux établissements qui sortiront de terre prochainement ne nous sortiront pas de la crise actuelle. Même si nous arrivons à construire un nombre record de cellules, le nombre de détenus augmente trop vite. Au printemps 2028, il manquera 9500 places dans les prisons du pays. La conclusion est claire. Nous devons trouver un nouveau mode de fonctionnement pénal.
la secrétaire d'État à la justice britannique, Shabana Mahmoud, qui a annoncé à la fois la construction de nouvelles prisons, mais ça ne suffira pas, dit-elle. Il se trouve que Gérald Darmanin cite souvent le modèle anglais Marion Vanier pour les prisons modulaires qu'il veut voir construire. 3000 places de prison dans des structures modulaires, donc des préfabriqués, avec des appels d'offres qui vont être lancés pour ces prisons préfabriquées qui seront destinées, dit-il, aux personnes condamnées à de courtes peines. Déjà, est-ce que c'est vraiment deux fois moins cher que la création de places en prison classique, comme il le dit avec le modèle anglais, et ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ce modèle-là, de cette nouveauté?
Alors, ce que je constate, c'est que à travers l'histoire, si on fait une revue historique de la criminologie très brève et des politiques pénales, la construction des prisons a toujours été mise en avant comme solution à la surpopulation carcérale. Ça c'est un grand classique. Donc quelque part, il y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau avec le discours de Mahmoud, c'est qu'elle reconnaît, et dans le rapport qui est sorti ce matin, l'ancien ministre de la Justice David Gok le reconnaît lui-même. C'est l'échec des politiques voulant être fermes. Et que le constat de la surpopulation, c'est en fait, pareil, une reconnaissance que ces politiques pénales qui consistent à mettre plus de gens en prison et ce qui mène à une surpopulation carcérale ne fonctionnent pas. Et le deuxième pendant de cette nouveauté, enfin de vraiment cette rhétorique qui pour moi est assez unique, en tout cas au niveau de l'historique des politiques pénales, c'est que la construction de nouvelles prison ne suffira pas non plus à adresser le problème de la surpopulation carcérale. Et en effet, l'Angleterre, là, les mesures qui sont prises, il y a vraiment une bifurcation. Il y a d'un côté un désir de libérer de façon anticipée ceux qu'on ne considère pas comme étant dangereux ou trop à risque, donc d'accélérer en fait le processus de libération. Il y a un deuxième volet qui est de financer les agents de probation, donc vraiment de créer un peu plus de lien entre monde carcéral et réinsertion. Et il y a quand même, en background, la création de nouvelles prisons. Et le dernier point que je voudrais souligner, et là, je fais un petit clin d'œil à un projet qui va avoir lieu dans le nord de la France et que je trouve absolument formidable, c'est que les projets de financement pour construire des nouvelles prisons, ce sont des prisons immenses, avec des places allant jusqu'à 1500 places. Et c'est des prisons qui vont être construites dans des espaces verts, dans des champs, qui sont protégés d'ailleurs certains, je pense à celle près de Preston où j'ai été, ce sont des champs où il y a des animaux, des fermes qui sont protégés d'ailleurs par différentes lois environnementales, et pourtant on va construire une supermax là-bas. Et du coup, la volonté d'adresser le problème de la surpopulation carcérale en construisant non seulement plus de prisons, mais des prisons immenses, c'est pour le coup ça c'est une erreur. Dans le nord de la France, on est en train de tester des petites prisons à proximité de la communauté pour vraiment mettre l'accent sur la réinsertion par le travail.
À Arras, c'est ça ?
Exactement. C'est un projet qui s'appelle INSER. C'est un acronyme que je ne serais pas capable de vous...
Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi.
Exactement.
C'est inspiré de quelque chose qui existe en Italie dans la prison de Bollat et qui devait concerner 3 prisons en France. Finalement, le dispositif a été quelque peu réduit. Franck Olivon, peut-être un petit mot là-dessus. Et pour conclure cette première partie, on entend beaucoup aussi, outre le fait de construire des prisons et développer les alternatives avec le manque aussi de moyens pour les services de probation et d'insertion dont parlait Marion Vanier, on entend d'aller louer des places en prison dans d'autres pays européens pour y mettre des prisonniers. Est-ce que beaucoup d'États se sont déjà portés volontaires? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mesure-là?
C'est pas forcément quelque chose qui est très commun. Ne serait-ce que parce que, en fait, à partir du moment où vous exfiltrez en quelque sorte vos détenus, vous perdez d'un certain point de vue la souveraineté sur l'exécution de la peine. Donc ça pose un vrai problème de souveraineté pour les États. Pour aller dans le sens aussi de ce que disait Marion Vanier, là, c'est la question, elle l'a dit, hein, de l'immensité de ces nouvelles structures, mais surtout de leur éloignement. Et c'est un vrai problème qu'on a, notamment que les magistrats rencontrent quand ils veulent prononcer de la semi-liberté, c'est d'arriver en fait à avoir des établissements pénitentiaires qui soient à proximité des lieux d'emploi. They took my baby to Holloway jail. They took my baby down Holloway jail.
was a lady when she went in. Now she's in jail and was giving me hell.
The Kings, 1971, Holloway Jail, la prison de Holloway, ancienne prison britannique dans le nord de Londres, d'abord lieu d'enfermement pour hommes, femmes et enfants, qui devient une prison uniquement pour femmes en 1903, et on y a enfermé les suffragettes lors des luttes de revendication du droit de vote pour les femmes, ou encore des militantes indépendantistes irlandaises au début du XXe siècle. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les politiques carcérales. Aujourd'hui, comment venir à bout de la surpopulation des prisons en Angleterre et en France. Entre construire de nouvelles prisons et développer des peines alternatives, les gouvernements hésitent plus ou moins. En Suisse, en particulier en Suisse romande, dans les cantons de Genève et de Vaud, la criminalité baisse, mais la population carcérale augmente.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Avec cette particularité suisse, 50% des détenus sont des étrangers sans permis de séjour, une surreprésentation que notre invité va nous expliquer. Bonjour Luca Gninger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel. Vous êtes aussi affilié au Centre National de Recherche sur les Migrations et les Mobilités. Et votre thèse porte sur la prison et le contrôle de l'immigration en Suisse. D'abord, est-ce que la surpopulation carcérale concerne l'ensemble de la Suisse? Pour parler d'abord d'un point de vue strictement géographique, disons.
Non, effectivement, vous le disiez en introduction, il y a des variations géographiques très importantes. La surpopulation carcérale en Suisse, elle concerne notamment la Suisse romande et notamment le canton de Vaud et de Genève, où le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture donnait les derniers chiffres, qui sont notamment dans la prison de Chandelon à Genève, d'un taux de suroccupation de plus de 130%, et également dans la prison lausannoise du Bois-Mermet, avec un taux de suroccupation de plus de 160%. Donc on a des différences régionales importantes, mais par endroit, effectivement, un taux de suroccupation extrêmement important.
Et à l'inverse, les prisons de la Suisse alémanique ne sont pas surpeuplées. Est-ce que c'est parce que les politiques pénales entre Suisse romande et allemande sont différentes? Est-ce qu'on a un début de réponse à cette différence?
Oui, absolument. On a le canton de Vaud et le canton de Genève qui ont des politiques punitives bien plus sévères, notamment quant à l'usage de la détention préventive et également au niveau du prononcé des peines. Et par ailleurs, des études ont été réalisées. Une étude a été réalisée à Genève et qui montre que la surpopulation est un problème chronique pour le canton. En 2014, on avait dépassé les 200% de taux de suroccupation dans certaines prisons genevoises. Et ces études montrent d'ailleurs très bien l'impact direct de cette suroccupation sur la santé des détenus et notamment sur le nombre de tentatives de suicide à l'intérieur des prisons. C'est donc un problème très, très prégnant ici en Suisse romande.
Et un problème de fond, puisque la criminalité baisse depuis 40 ans, mais pas la population carcérale. Et il se trouve que 50% des détenus sont des étrangers sans permis de séjour, hors prison. Cette fois, quelle part de la population suisse représente ces détenus étrangers? Pour essayer de comprendre déjà s'il y a vraiment un problème de surreprésentation dans les prisons.
Oui, effectivement, en Suisse, on est dans une situation assez exceptionnelle à ce niveau-là, en comparaison européenne, puisque les étrangers représentent plus de 70% de l'ensemble des détenus, et les étrangers sans permis de séjour en particulier représentent à eux seuls environ la moitié de tous les détenus. Ce qui est également surprenant, parce qu'en Suisse, en fait, on a une politique punitive qui est pas particulièrement sévère, avec un taux d'incarcération globalement qui est plutôt dans la moyenne basse en comparaison européenne, mais qui cible de façon très intense cette part très restreinte de la population. Je dis très restreinte parce que, d'après toutes les estimations, les étrangers sans permis de séjour constituent environ 1 à 2% de la population, disons, des personnes qui vivent sur le territoire. Évidemment, ce sont des estimations parce que parmi ces personnes, il y a beaucoup de personnes déboutées de l'asile ou de personnes qui vivent clandestinement sur le territoire. Néanmoins, il y a des estimations très sérieuses qui permettent de chiffrer ça. Et donc, ce très petit groupe de la population, qui représente donc 1 à 2% de la population, est ultra massivement surreprésenté dans les prisons suisses.
Alors, comment expliquer cette surreprésentation dans les prisons, dans un pays dont vous rappelez, Lucas Gnedinger, qu'il enferme assez peu? Statistiquement, quelle part d'infractions, de délits, voire de crimes sont effectivement commis par des étrangers sans permis de séjour?
Alors, il y a effectivement une légère surreprésentation dans la criminalité de ce groupe. Surreprésentation dont la criminologie a très bien montré qu'elle n'a pas trait à la nationalité de ces personnes ou au fait qu'elles soient étrangères en tant que telles. On sait très bien que les personnes qui sont en fait qui ont, disons, une propension plus grande à adopter des comportements criminalisés, ce sont les personnes plutôt jeunes, plutôt qui sont des hommes, qui sont plutôt précaires et peu formés. Il se trouve que les étrangers sont surreprésentés parmi les jeunes hommes pauvres et peu formés, donc il y a un petit biais lié à ça. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qui explique la situation en prison, parce que là, cette surreprésentation de la criminalité est pas du tout suffisante pour expliquer les chiffres. En réalité, il y a une politique pénale qui cible particulièrement ces personnes et qui les discrimine à différentes étapes de la procédure judiciaire, qui vont du travail de la police jusqu'à celui des tribunaux, et qui conduit ces personnes à être surreprésentées dans les prisons de façon absolument exceptionnelle. Et puis, par ailleurs, il y a une politique de criminalisation assumée et ciblée de l'immigration dite indésirable, c'est-à-dire de l'immigration originaire des anciennes colonies européennes et des marges racialisées du continent.
Mais vous parlez de toute une chaîne impliquée, mais jusqu'au juge, et vous citez en 2005 la loi fédérale sur les étrangers qui entre en vigueur en 2008 en Suisse, qui prévoit des peines allant jusqu'à 1 an de prison en cas d'entrée ou de séjour illégal. Pour essayer de résumer, il y a beaucoup à dire, mais en quoi les lois d'immigration ont un effet aujourd'hui direct sur la surpopulation carcérale en Suisse?
Donc ces lois, notamment la loi sur les étrangers de 2005, sont des lois qui font en fait du simple fait d'être un étranger sans permis de séjour un délit passible d'un an de prison jusqu'à 3 ans dans le cas où les autorités ont été volontairement induites en erreur. Donc il y a une forme de criminalisation formelle directe, une transformation par le droit d'un comportement en crime qui explique dans une très large mesure la situation actuelle dans les prisons, puisque depuis les années 80, et je pense que c'est aussi important de dire que cette situation elle est absolument nouvelle. Dans les années 80, ce sont les Suisses qui étaient les nationaux qui étaient très largement majoritaire en prison. Et depuis les années 80, il y a eu un ensemble de changements législatifs, de changements dans la pratique qui ont renforcé cette criminalisation et qui font aujourd'hui que le simple fait d'être un étranger sans permis de séjour en Suisse élargit considérablement la palette des délits qu'il est possible de commettre et qui conduit in fine cette catégorie très restreinte de la population à être surcriminalisée et surciblée par ces lois. Ça, c'est une première chose. Un autre élément, c'est l'ensemble des discriminations directes et indirectes qui sont subies par ces personnes. Je parlais un petit peu plus tôt du travail de la police. On a évidemment le cas du profilage racial, qui est aujourd'hui très bien documenté, qui sont donc des discriminations qu'on pourrait qualifier de directes, puisqu'elles ciblent directement une personne en fonction de son apparence. Et puis, on a ensuite tout un ensemble de discriminations qu'on pourrait qualifier d'indirectes, puisqu'elles ne sont pas pensées pour discriminer, mais elles découlent de procédures qui sont pensées dans un autre but. Je pense ici, par exemple, à la détention préventive, qui peut être demandée pour 3 motifs. La peur face à la récidive, la peur face à la collusion et la peur face au risque de fuite. Et il se trouve que, dans le cas des étrangers sans permis de séjour, le risque de fuite est systématiquement invoqué pour placer ces personnes en détention préventive, ce qui est une discrimination qui est donc indirecte, mais qui a un effet très fort sur la population carcérale in fine.
et qui ne prennent pas en compte le fait que beaucoup de ces étrangers ont bâti quelque chose déjà en Suisse et n'ont pas du tout l'intention d'en partir. Et que parmi ces étrangers qui sont en situation irrégulière, beaucoup viennent d'être déboutés de leur demande d'asile ou sont en instance de procédure d'asile. Donc merci beaucoup Luca Gnedinger pour ces explications. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'article « Paradoxe suisse entre mensuétude pénale et criminalisation de l'immigration » paru dans la revue Champ Pénal il y a quelques temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot peut-être là-dessus, Franck Olivon, sur le fait que on lit cette idée d'expulser des détenus étrangers. Elle fait son chemin en France. Gérald Darmanin a déjà enjoint les procureurs, les directeurs de prison à repérer les détenus étrangers éligibles à une expulsion du territoire français. Mais c'est dans le même, un petit peu le même cas que ce qu'on a expliqué juste avant le focus, le même cas que ce qu'on va sous-traiter. Enfin, on va demander à des pays de sous-traiter la mise en prison. C'est qu'encore faut-il que à la fois les pays d'origine acceptent de les accueillir dans ce cas-là ou que
il faut qu'il y ait l'existence d'accord en fait, et c'est ce qu'a souligné le ministre de la Justice. Par ailleurs, se pose la question des binationaux, se pose la question de des personnes dont on n'arrive pas à identifier en fait l'origine nationale. Donc voilà, c'est une question assez complexe en fait. Je pense qu'au total ça fera un résidu assez faible en fait de détenus qui pourront effectivement être renvoyés vers leur pays d'origine, avec encore une fois cette question de d'enjeu de souveraineté pour la France de faire exécuter en fait une peine par un pays étranger. Rien n'assure que si on envoie un détenu ailleurs, la peine sera effectivement exécutée telle qu'elle a été prononcée par les tribunaux français.
La Belgique envisage aussi d'accélérer la libération de ces détenus étrangers en situation irrégulière dans l'optique de les expulser du territoire national. Marion Vanier, que ce soit sur l'expulsion de détenus étrangers dans les prisons françaises ou anglaises ou ailleurs, et la sous-traitance de la sous-traitance des prisons. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, si on devait rapidement... J'ai l'impression que cette idée a évolué très vite.
Alors, oui, juste deux points. Sur la location, l'externalisation de la mise en détention, c'est pas un phénomène si peu commun. En fait, on a des exemples en Europe. Le Danemark a expulsé et loué des places au Kosovo pour mettre en prison des étrangers en attente d'expulsion. La Norvège a loué des places aux Pays-Bas, cette fois pour expulser des détenus étrangers. Donc là, c'était pas une question d'immigration, mais ce sont des détenus qui ont commis des crimes sur le territoire norvégien et qui étaient étrangers. L'Angleterre, sous Rishi Sunak, voulait, cette loi n'a pas abouti, mais mettre en détention et expulser au Rwanda les immigrants illégaux.
On n'a plus que quelques secondes. Oui, pardon, on n'a vraiment plus que quelques secondes avant de conclure cette émission.
Donc, la délocalisation de la souveraineté, la délocalisation de la prison, c'est à la fois une volonté de réaffirmer ses frontières, mais aussi, je trouve que c'est un aveu de la faiblesse du pouvoir public quant à sa politique pénale.
Merci beaucoup Marion Vanier d'avoir été avec nous depuis les studios de Ici Gare Lozère, et je remercie Lucie Leyres-Roux de vous avoir accueilli, et merci beaucoup Franck Olivon, maître de conférence au département de géographie de l'ENS.
Merci beaucoup.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Les Nations Unies ouvrent une enquête après de graves accusations portées contre l'Inde, Catherine.
Les autorités auraient forcé 40 réfugiés Rohingyas à se jeter à la mer depuis des navires de la marine indienne pour qu'ils rejoignent une île birmane, explique le quotidien indien The New Indian Express. C'est un mépris flagrant pour la vie et la sécurité de ceux qui ont besoin d'une protection internationale, souligne Tom Andrews, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Birmanie, cité par le Washington Post. Les Rohingyas, minorités musulmanes, sont persécutés en Birmanie depuis des décennies, rappelle The New Indian Express. Ils sont 1 million à s'être réfugiés au Bangladesh, mais ils vivent dans des camps de fortune sordides, alerte le journal bangladais The Daily Star. Près de 22 000 Rohingyas réfugiés également en Inde, ajoute le New York Times, et le quotidien américain fait entendre l'inquiétude des familles de ces 40 Rohingyas jetés au début du mois dans la mer d'Andaman par la marine indienne. Ils ont été arrêtés à New Delhi avant d'avoir les yeux bandés, précise The New Indian Express. Express et le Daily Star. Une quinzaine de personnes ont eu beau supplier, aucune clémence, note le New York Times, à qui David Nazir, un autre réfugié Rohingya, a confié que son frère et ses parents âgés faisaient partie de ce groupe jeté à la mer au large de la Birmanie avec des gilets de sauvetage. David n'a appris ce qui leur était arrivé qu'après un appel de son frère. Il avait emprunté le téléphone d'un pêcheur en débarquant sur la côte birmane. Des hommes, des femmes, des enfants, précise l'agence de presse AP, tous auraient survécu jusqu'au rivage, indique le Daily Star. Mais la plus grande crainte aujourd'hui, raconte encore David Nazir au New York Times, c'est que l'armée birmane que les Rohingyas avaient fui ne les rattrape, sachant que le régime continue de tuer aveuglément, de bombarder les civils, constate le journal birman The Irrawaddy. Le titre en exil dénonce par ailleurs dans un édito le soutien criminel de la Russie et de la Chine qui fournissent des armes, des avions de guerre à un régime fantoche. Il dénonce aussi le rôle de l'Inde qui a tué 10 rebelles birmans ces derniers jours, des hommes armés pro-démocratie dans la région de Sagaing. Le gouvernement indien les a décrits comme des extrémistes armés impliqués dans des activités insurrectionnelles transfrontalière. New Delhi est entré dans une logique punitive, analyse le New York Times. Depuis le début du mois et le récent conflit entre l'Inde et le Pakistan, dans plusieurs États indiens, des responsables de gouvernements de droite ont arrêté et expulsé des milliers de musulmans, prétendument des Rohingyas ou des Bangladais qui vivaient illégalement en Inde. Certaines personnes avaient pourtant des documents de réfugiés censés leur assurer une protection, souligne le New York Times. Les actions les plus radicales, note encore India Today et le Times of India, ont eu lieu dans le Gujarat, l'État d'origine du premier ministre nationaliste Narendra Modi. D'autres Rohingyas, dont 4 enfants, ont été arrêtés dans la ville d'Hyderabad, rapporte The Indian Express.
Et le Bangladesh a également vu l'Inde voisine expulser des centaines de Rohingyas vers son territoire.
Une centaine de Rohingyas, peut-être 200, ont été envoyés vers les Sundarbans, une forêt de mangroves, précise le New York Times. Ils ont dû être secourus par les gardes-côtes bangladais. D'autres régions inhospitalières sont utilisées par l'Inde pour expulser des musulmans, alerte la chaîne Al Jazeera, qui a retrouvé une famille de Rohingyas au Bangladesh. Elle avait également eu les yeux bandés après une arrestation dans l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Des expulsions extrajudiciaires qui vont à l'encontre du droit international, selon Bangla Outlook.
Whether you are a citizen or not, so long as you are in India, you have the right to life and liberty.
Que vous soyez citoyen indien ou non, tant que vous êtes en Inde, vous avez des droits à la vie, à la liberté. Vous ne pouvez pas être traité de cette manière, comme si vous n'étiez pas humain, envoyé ensuite à la mort ou jeté dans la mer, insiste l'avocat indien Prashant Bhushan, interrogé par Al Jazeera. La chaîne télévisée redoute, elle, de nouveaux pleurs de réfugiés Rohingyas qui tentent de fuir la violence. Ces dernières années, les réfugiés Rohingyas ont été attaqués par des groupes nationalistes hindous qui ont exigé leur expulsion vers le Bangladesh et vers la Birmanie, des pays voisins donc de l'Inde. Et l'an dernier, rappelle le Washington Post, le premier ministre indien Narendra Modi a mis en œuvre une loi controversée sur la citoyenneté qui, selon ses détracteurs, discrimine les musulmans, y compris les immigrés Rohingyas. Sur les réseaux sociaux, les expulsions de ces derniers jours menées par le gouvernement indien ont été comparées à celles de l'administration Trump, relève le New York Times. Le monde observe peut-être cela en silence, mais Dhaka ne doit pas refléter ce silence, conclut Bangla Outlook. Car le silence est rarement neutre, le plus souvent, il se range du côté de l'agresseur. Merci de continuer à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, sur cette chronique, je vous le rappelle, un ou une spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon qui recevra d'abord le journaliste Guillaume Perrier du Point, de retour de République démocratique du Congo, plus précisément des mines du Kivu. Un retour de terrain suivi d'une table ronde consacrée à la guerre des prix du pétrole et le rôle de l'OPEP avec Mathieu Ozano et Emmanuel H. Dans un instant, les Midis de Culture.